Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
On essaye d'avoir plusieurs flèches à notre arc ou plusieurs cordes, je sais pas comment.
On a plusieurs flèches à notre arc, comme on dit.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche. Donc.
C'est vraiment une nouvelle corde, une flèche à notre arc, une nouvelle.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Villas.
22h02, vous êtes sur RMC, merci d'être avec nous, l'after est là comme chaque soir jusqu'à minuit. L'Euro des Bleus est terminé, Lionel Charbonnier fait le bilan pour lui, l'équipe de France n'était pas une équipe. Elle va nous expliquer ça dans un instant, analyse de ouf à venir, signé Lionel Charbonnier. Bien joué au gagné, que choisir, débat relancé par Thierry Henry et Hervé Renard, sélectionneur des équipes de foot fées françaises engagées aux Jeux Olympiques et pour qui le résultat doit donc primer. Vous êtes plutôt team jeu ou team résultat? Venez nous le dire au 32-16. Et puis ensuite, avis tranché de Walid Acharchour sur le mercato. Où va le PSG? Walid a du mal à comprendre. Il va essayer de développer ça dans un instant. Et puis on écoutera Pierre Sage, l'entraîneur de l'OL, sur ses ambitions, celles de son équipe également. Qu'attendez-vous de l'OL et de Pierre Sage la saison prochaine? On vous attend là aussi au 32-16 pour nous le dire. Supporter de Lyon, entre autres. Lionel Charbonnier, bonsoir.
Bonsoir à tous.
T'étais déjà là, toi, de toute façon. C'est un peu bonjour. Aujourd'hui, on est le 12 juillet. On en a parlé dans le Génération avec Thibaut.
Ouais. J'étais là, j'ai fait 10 minutes les 10 dernières minutes.
Ouais, mais quelle 10 minutes hein? Incroyable, quelle masterclass, on appelle ça.
Ouais,
bien sûr.
Ouais.
Et Walid Acharchour, il a bu tes
je
paroles.
Je reste là-dessus, je pars.
Ça va, Walid?
Ça va, Nico, ça va. Salut, Walid. Ça salue Lionel, salut à tous.
T'as bu ça tel quoi d'ailleurs? À quelle boisson on pourrait associer ce que Lionel a dit? C'était quoi? C'était sucré? C'était quoi? C'était pétillant?
Moi, tu sais que j'ai arrêté les boissons sucrées là depuis un mois et demi, donc j'ai pas envie d'en parler.
T'en bois plus du tout?
Je bois plus du tout.
C'est quoi ce qui te manque le plus?
Un bon coca quand même. Un bon coca rouge. Coca vert.
Vert, pas, c'est quoi?
C'est quoi le vert? Vert, c'est brasserie, coca brasserie.
Ah.
Pour moi, il y a différents coca. Le coca brasserie, le coca canette, bouteille de
demi-part. Ah,
oui,
en
le
vert.
Oui,
en
vert.
Ah,
en vert.
Je crois que la couleur.
Ah non.
Je me suis dit, il y en a un qu'ils ont fait à la marée.
Non, je te dis, en gros, le. La bouteille de
pas du tout le même goût.
Pour moi la bouteille en verre glace en citron, c'est différent de la canette.
Toi, bled, comme au bled, tu vas au café, ils te le servent encore.
Oui.
Et tu même en supermarché, tu trouves dans des bouteilles en verre.
Oui, voilà, je préfère en verre.
C'est vrai que c'est pas le
parce que par exemple la bouteille de coca en 2 litres en plastique là,
ouais.
Je trouve le goût très différent d'une bouteille en verre.
La canette, ça a le goût du fer un peu là. D'ailleurs, vous êtes plutôt team coca vert ou coca canette ou alors autre, d'ailleurs venez nous le dire là aussi au 32-16. L'after, c'est parti. C'est quoi la boisson qui te manque le plus toi, Lionel? Toi, t'as rien arrêté toi. D'ailleurs, c'est un problème, d'ailleurs, faut qu'on en parle.
Ouais, Lionel. D'ailleurs, ouais. Bonjour, je m'appelle Lionel.
Il y a un peu ça en Bourgogne, c'est pas le coca, mais il y a deux trucs pas mal. Dimanche 21h, la finale de l'Euro opposera l'Espagne à l'Angleterre, les Bleus qui ont été éliminés par la Roja en demi. Et l'heure était au bilan. Lionel Charbonnier a un avis tranché sur cette équipe de France. Jingle.
Quand je le vois, toute proportion gardée, j'ai l'impression d'entendre Jürgen Klopp quand il est arrivé à Arsenal.
Arsenal. Là, j'en ai fait deux belles dans la même.
Jürgen Klopp.
Arsenal.
Arsenal, ouais. En plus, ouais. Ah, ouais double, la double.
Ah ouais, non, j'étais en forme.
Alors pour toi, mon Lio, l'équipe de France n'était pas une équipe sur cet Euro 2024.
Ouais, parce que j'attache beaucoup d'importance à la différence entre une sélection et une équipe. Et une sélection devient très très bonne à partir du moment où elle est une équipe. Et donc, justement, ça avait fait la force de cette équipe-là, de cette sélection-là, en 2018, par exemple. C'était la force où tout le monde, chaque joueur, était partie prenante. Tu vois, parce que faire une équipe, on entend souvent, le groupe vit bien. En 2018 ou en 98, le groupe vit bien. Mais le groupe vit bien, c'est quoi? C'est pas mettre quatre merguez autour d'un barbecue et puis on tape la truc. C'est pas ça. Le groupe vit bien. Ça, c'est un bon début, déjà. On commence bien. Parce qu'il y en a, ils veulent pas partager le repas, des fois. Mais là, non. Ben, donc, t'as ton barbecue, t'as ta merguez, tout le monde y va et tout. Mais ce que tu vois, une équipe, ça se voit sur le terrain. Cette unité que tu dois avoir sur le terrain, que je n'ai pas vu personnellement. Pour moi, ça s'est désagrégé pourquoi je pense avoir une ou deux petites explications. Ce ne sont pas, c'est pas, c'est ma vérité, c'est pas la vérité.
Mais genre, du genre.
Tout simplement parce qu'une équipe, ça se construit aussi autour de leaders. C'est l'investissement des joueurs. Personnellement,
dis-moi que tu vas me dire que t'as pas aimé la façon dont Griezmann a été traité, je dirais entre guillemets. C'est-à-dire, il a été un peu lâché, on a l'impression quand même, non, par Mbappé, par Deschamps, par Rabiot, par exemple.
Et ben voilà, exactement. Et moi, j'ai ressenti ça. C'est pas que Griezmann. Ça peut être Giroud, ça peut être aussi Mbappé. Mbappé qui n'a pas eu, en tant que capitaine, en tant que leader de l'équipe, qui n'a pas eu le discours qu'il aurait dû avoir d'un capitaine rassembleur à un moment donné. Voilà, c'est tout ça. Et là, ce sont des petits trucs qui ne sont pas très importants pour les gens. Mais quand tu es joueur, tu perds le truc. Parce que déjà, il faut que ton leader, quand il dit ça, il doit être irréprochable. Déjà, il faut qu'il se sente, il faut qu'il soit reconnu comme leader. Et moi, je pense que là, Mbappé, de par la saison qu'il avait fait, de par son traitement à l'intérieur, parce qu'à partir du moment où ton leader n'est pas le meilleur joueur et n'est pas un leader naturel de vestiaire, et s'il n'est pas le meilleur joueur, il perd de la crédibilité. En plus de sa crédibilité, il a eu un traitement avec son masque, son machin, que ce soit par les médias, que ce soit par le staff médical et tout ça. On voyait du Mbappé, du masque à Mbappé, le masque qui va pas, et tout ça. Et je peux te dire que les autres joueurs, quand ils voient ça et que leur propre leader prend toutes les couvertures à lui, prend toutes les images, toutes les lumières, et que les autres qui ont existé jusque-là n'existent plus, ils commencent à remettre en question la légitimité de Mbappé. Ils commencent à gratter, à regarder un petit peu, ils grattent les murs, et puis ça commence à tomber, et là ça s'est frité. Et c'est pour tout ça que je dis, et puis même dans le jeu, dans les intentions de jeu, quand tu fais une passe, que le groupe vit bien justement, que ta saucisse merguez, tu peux la voir exactement sur le terrain. Pareil, ce partage que tu as. Là, il n'y avait que des merguez, franchement. Et quand tu fais une passe dans un groupe qui vit bien, le mec qui fait la passe, il dit tiens, régale-toi. Il ne donne pas qu'un ballon. Tu sais, c'est comme quand tu fais le relais, quand tu passes le relais, tu ne donnes pas seulement un bout de bâton, tu donnes un truc, tu donnes une intention, tu donnes une maîtrise, tu donnes tout, tu donnes ton âme. Quand tu donnes un ballon, tu donnes ton âme. Tu dis, tiens, vas-y, régale-toi, va marquer. Là, j'ai jamais senti ça. Et donc, c'est pour ça que pour moi, cette équipe n'en était pas une. Enfin, en tout cas, c'était une sélection d'individualités qui n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils auraient dû être.
Alors, venez nous dire au 32-16 si vous êtes d'accord avec Léna. Juste avant d'avoir ton avis, Walid, je voulais aussi te relancer là-dessus, parce qu'on en a pas mal parlé ces derniers jours. Il y a par exemple, puisque il y a un nom que tu n'as pas prononcé là-dedans, c'est aussi celui de Deschamps, parce que c'est lui aussi qui...
Ah non, mais...
Tu vas voir, je vais en venir. Il y a la question des joueurs non utilisés. La France est quand même allée jusqu'en demi-finale. Il y a 7 joueurs qui n'ont pas joué une seule minute.
Exactement.
Y compris les deux gardiens remplaçants. Mais Pavard, Ferland Mendy, Zaire Emery, Jonathan Clauss, Konaté, par exemple, n'ont pas joué une minute. Pour qu'un groupe vive bien, comme tu dis,
exactement.
Pour que tout le monde se sente concerné aussi. Est-ce que là-dessus, ça a été bien géré aussi?
Non, pour moi, voilà, c'est une faute commune. C'est-à-dire que pour
Après, il n'en a pas eu la possibilité parce que le troisième match devait permettre à l'équipe de France d'assurer une qualification et d'aller chercher la première place.
Oui, parce que contre les Pays-Bas, il aurait pu faire plus de turnover.
Bien sûr, mais parce que contre les Pays-Bas, déjà, il avait montré une grosse frilosité en deuxième partie de match où il avait fait du poste pour poste et qu'il avait laissé uniquement deux solutions offensives avec Giroud qui rentre à la place de Thuram et Coman qui rentre à la place de Ousmane Dembélé. Voilà. Donc c'est aussi l'erreur de Didier Deschamps là-dessus.
Mais ça tient, une unité de groupe, ça tient aussi. Attention, je ne fustige pas les joueurs, que les joueurs. Je fustige en même temps. Pour moi, tout le monde a loupé l'investissement des joueurs. Ça, c'est un fait. Il y a Dédé qui doit, c'est aussi lui, quand t'es le maître, que t'es à la baguette, le chef d'orchestre, c'est toi qui dois orchestrer tout ça. C'est toi qui dois te faire sentir concerné ceux qui ne jouent pas. Ceux qui ne jouent pas doivent être aussi concernés et d'autant plus quand t'es sur le banc, tu dois être concerné, montrer ton envie de gagner au titulaire. Là, je te prends, tiens, juste une image parce que à 1-0 pour la France, j'ai vu l'image du banc de touche français. Et juste après, on a vu le banc de touche espagnol. Je peux te dire que les Espagnols, à 1-0, ils étaient tous debout en train d'encourager les joueurs, leurs joueurs et tout ça. Les Français, tout le monde était dans le fond du banc. Tout le monde était emmitouflé. Il n'y en avait pas un qui bougeait. Les têtes, elles n'étaient pas investies. Les yeux, ça ne respirait pas la gagne. Ça ne respirait pas l'envie d'aller faire
un autre exploit. Mais ça vient d'où alors, Lionel ? Parce que,
de tout ce que je te dis.
Oui, mais c'est-à-dire que tu joues quand même un euro. Tu es en demi-finale contre l'Espagne. Parce que ce que t'explique, moi, je l'ai ressenti aussi contre le Portugal, où je n'ai pas senti véritablement...
C'est pas sur un match. Hein,
ouais, c'est pas que sur un match. Donc... Comment on l'explique? Nous, on nous a dit quand même en début de compétition que le groupe vivait bien, que tout allait bien.
Non,
que...
et le groupe vit bien.
Toujours, c'est toujours le poncif.
Parce
quoi.
Qu'on les voit rigoler ensemble, ouais, voilà. On les voit faire un truc ensemble. Mais le groupe vit bien, c'est ce que je veux te dire. Alors peut-être je me suis mal exprimé. C'est pas seulement ça. C'est pas partager une saucisse merguez. C'est pas
jouer au cartes ce soir.
C'est aller au-delà de tout ça, avoir envie de te dépouiller pour ton pote. Mais cette envie-là, elle vient pas que de toi. On te l'inculque, comme disait Nico. Ça vient de l'entraîneur, ça vient du sélectionneur, ça vient du staff, ça vient des médias, ça vient de tous les joueurs. C'est tout ça qui...
Moi, je pense que ça vient essentiellement de Deschamps. On a déjà, je vais pas remettre une pièce dans le jukebox, mais je pense que son management tout au long de la compétition.
Peut-être pas que, mais en tout cas. Du Kylian.
Oui.
Ses réflexions, enfin, les leaders.
Oui,
je critique beaucoup Kylian, mais qui
lui a donné les pleins pouvoirs? C'est Didier Deschamps. Il y a encore eu des échos, hier ou avant-hier dans l'équipe qui disait qu'il y avait un traitement différent et tu sais très très bien comment ça se passe dans les vestiaires. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Quand les leaders, quand les gros joueurs ont des passes droits entre guillemets et qui font plus gagner les matchs, qui font plus gagner les compétitions, qui font plus gagner des sponsors, qui font plus gagner des gros contrats,
ils perdent leur crédibilité leader.
Et surtout c'est plus la même chose. Moi je me rappelle d'une phrase de Rabiot qui avait dit, je crois en 2022, je vais aller faire le sale boulot pour Kylian Mbappé, parce qu'il savait très bien qu'il y avait un Kylian Mbappé
envie de le faire.
Et oui, on sent que c'est différent. Un Griezmann n'a plus peut-être envie de le faire parce qu'il a ressenti qu'il n'avait plus la même place dans le vestiaire. En tout cas, la place que lui donnait Didier Deschamps. Une dernière chose sur ta notion d'équipe. Parce que toi, tu parles, j'ai le sentiment, quand je t'écoute, que tu parles plus de l'unité, l'état d'esprit, ce que tu mets
individuel sur
le terrain. Moi, je vais aussi te parler de ce que tu mets en place tactiquement. Comment tu simules ton équipe, comment tu simules ton groupe.
Et Walid, je vois ce que tu veux dire, mais à partir de là, tout est remis en cause.
Mais juste pour aller au bout, ils remettent
la tactique en cause, ils remettent tout, oui. Puisque ce sont plus investis.
Mais juste pour aller au bout, moi j'ai encore eu des échos aujourd'hui, c'est que tactiquement, il y a eu très très peu de travail sur cette compétition. Les fameux systèmes de jeu qu'il a mis en place, notamment les 4-4 de losange à un moment donné, ou même le fait de mettre Griezmann à droite, c'était des choses qu'il a très très peu préparées. Et hormis beaucoup d'oppositions, tu connais les oppositions là avec les deux grands buts là, les 7 contre 7 que tu vas faire en laissant de la liberté aux joueurs, notamment offensivement. Allez. Il y a eu très très peu de travail. Donc même sur la notion d'équipe que tu veux évoquer là-dessus, moi je vois qu'il y a beaucoup de sélections qui sont rapprochées de systèmes de clubs. Je pense à la Suisse, je pense à l'Espagne, je pense à l'Allemagne. Nous, on est resté une sélection, c'est-à-dire une sélection de joueurs. Et je trouve que par rapport aux autres compétitions, on l'a perdu, ça. On l'a pas senti, notamment sur le plan offensif.
Alors, on poursuit le débat dans un instant. On vous attend au 32-16, sur la vie tranchée de Lionel pour qui l'équipe de France n'était pas une équipe. Tiens, ça vient de repartir. Début de seconde période sur le match de qualif pour l'Euro 2025. L'équipe de France féminine qui affronte la Suède. On rappelle, l'équipe de France féminine qui sera bien entendu au JO. On suit ça avec Hamza Rahmani. Salut Hamza.
Salut Nico. Ravi de te retrouver pour ce rendez-vous entre l'équipe de France et la Suède. 1-0 pour les Bleus grâce à une frappe exceptionnelle de Sakina Karchaoui à la 32e. On rappelle, en cas de victoire, l'équipe de France sera qualifiée pour l'Euro 2025 en Suisse l'été prochain.
Merci Hamza. Et puis c'est reparti également au basket. Autre équipe qu'on retrouvera aux Jeux Olympiques, l'équipe de France qui affronte la Serbie ce soir en Suisse avec Jérémy Donzet. Salut Jérémy.
Salut Nico, rebonsoir à toutes et à tous. Ils sont en grande difficulté. Ils sont menés de 15 points par l'équipe de la star NBA Nikola Jokic. 49-34 pour les Serbes. On est en tout début de troisième quart-temps. Les Bleus qui ont traversé, qui ont eu un gros trou d'air en deuxième quart-temps. 27-9 encaissé par les hommes de Vincent Collet. Il va falloir réagir devant le public de la LDLC Arena. Plus de 10 000 spectateurs. 51-34, 17 points de retard pour les Bleus. C'est le plus gros écart de la rencontre. Il reste 7 minutes à jouer dans le troisième quart-temps.
Allez, on retrouve les Bleus également, ceux de Didier Deschamps dans un instant avec Lionel Charbonnier, avec Walid Acharchour, avec vous au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Nicolas Villas.
Vous êtes sur RMC, merci d'être avec nous, avec Walid Acharchour, avec Lionel Charbonnier. On a été en plein avis tranché de Lionel Charbonnier pour qui l'équipe de France à l'Euro n'était pas une équipe justement. On attend vos appels, vos interventions au 32-16. Juste avant cela, Le score évolue entre la France et la Suède. Je rappelle, match de qualif pour l'Euro féminin 2025, Hamza Rahmani. Et mauvaise nouvelle pour les Bleus.
Oui, effectivement, gros coup dur. L'égalisation pour la Suède sur un corner dévié au premier poteau. Joséphine Ribéry au second poteau qui reprend et qui a juste à bout portant Pauline Perrault-Magnien. Un partout entre la France et la Suède. On rappelle, la France doit s'imposer ou sinon, en cas de match nul, espérer sur une non-victoire de l'Angleterre. Problème, l'Angleterre mène 2-0 face à l'Irlande.
Merci beaucoup Hamza, on va accueillir Mathieu qui nous a appelé au 32-16. Salut Mathieu.
Bonsoir.
Ça va Mathieu?
Ouais, ça va plutôt pas mal, merci bien, ouais, c'est gentil.
Tu nous appelles d'où Mathieu?
De Metz.
D'accord, ok. Il fait beau à Metz? Non, il fait pas beau, hein, rassure-moi.
Ah, il commence, le soleil va arriver là, on est bien.
Bon. Alors tu nous appelles, tu voulais réagir à la vie tranchée de Lionel. Qu'est-ce que t'en penses toi? Tu trouves que cette équipe de France finalement elle vit pas si bien que ça, qu'il y a eu un problème au-delà même peut-être des résultats et de ce qu'on a pu, enfin des résultats, tu me diras, ils sont en demi-finale, mais bon, au-delà du jeu, etc. Il y a un truc, toi aussi tu te dis, je la reconnais pas cette équipe de France?
Non, moi en fait ce que je pense c'est que on est une équipe qui était hyper méga solide. Quand on dit que ça joue pas en équipe, c'est une équipe qui est aussi forte en défense que ça. Elle a un gros niveau. Les joueurs se sont battus les uns pour les autres. Sinon, on aurait été beaucoup plus friable en défense. La seule chose qui a manqué dans cette équipe, pour moi, c'est le manque de réalisme. Si nos attaquants avaient été assez réalistes en équipe de France, si Mbappé avait marqué le but à la 85e contre l'Espagne, je pense qu'on était en prolongation et on pouvait probablement battre les Espagnols et être en finale. C'était une autre histoire qui se passait. Le seul problème, c'est que on n'a pas été assez réaliste, et c'est ça. Si jamais on avait Mbappé qui marquait ses 3-4 buts dans la compétition, on aurait dit que c'était une équipe qui était énorme, très solide en défense, que les mecs ont été...
Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour qu'il marque? Qu'est-ce qui manquait pour qu'il marque? Parce que dire il n'a pas marqué, c'est dommage, il n'a pas marqué. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour qu'il marque, qu'il soit en confiance, justement?
Ben c'est le réalisme, c'est la saison de Mbappé.
Bah le réalisme, pourquoi tu ne l'as pas? Le réalisme, ça ne vient pas comme ça. Le réalisme, il vient à cause de quelque chose. C'est-à-dire un buteur, et notamment un buteur qui est très en confiance. Il a beaucoup de réalisme. Comment tu fais pour l'avoir, ça?
Je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est Mbappé qui était dans son transfert avec la dernière saison au PSG où il n'était pas dedans. Je pense qu'il y avait Griezmann qui était peut-être un petit peu fatigué et le conflit qu'il y a eu peut-être au niveau du capitaine qui l'a peut-être un petit peu embêté. Mais si le but à la 85e il est mis, il y est au niveau du jeu en lui-même, on est l'équipe qui s'est procuré le plus d'occasions devant le but.
Mais pourquoi Mbappé a marqué par exemple en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine? Il en marque 3 d'un coup des buts venus d'ailleurs alors qu'il avait été inexistant et tout d'un coup il s'est révélé. Pourquoi? Ça a fonctionné deux ans avant et là ça ne fonctionne plus. Griezmann, ça ne fonctionne pas. Thuram, ça ne fonctionne pas. Je parle offensivement.
Ouais, c'est ça. Mais c'est que les attaquants qui n'ont pas fonctionné.
Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, moi. Moi, je pense que l'analyse, elle est quand même très simpliste de se dire que c'est uniquement notre efficacité qui nous a fait défaut. Toi, t'as été content, toi, du rôle des milieux de terrain dans la création offensive. Alors oui, défensivement, ils ont fait plutôt le boulot, hein, même plutôt bien sur la première partie de compétition. Mais moi, la créativité des milieux de terrain contre la Pologne, notamment Kanté et Rabiot, j'avais trouvé ça quand même très décevant.
Ça reste une compétition différente pour les équipes comme l'équipe de France, l'équipe d'Espagne, les grosses équipes comme ça, elles ne les jouent pas pareil.
C'est-à-dire
la vraie compétition pour eux, ils savent qu'ils vont se qualifier.
Surtout donc ça veut dire que c'est-à-dire qu'une équipe de Pologne qui était déjà à Varsovie parce qu'elle était déjà éliminée après deux défaites sur les deux premiers matchs, toi tu penses que l'équipe de France ne devait pas gagner ce match-là pour aller se donner un tableau plutôt favorable et comme l'Angleterre pouvoir aller en finale? Moi je peux pas entendre le fait qu'on dise tu te qualifies uniquement. Non, t'es l'équipe de France, tu dois avoir la meilleure partie de tableau et essayer d'aller chercher une victoire importante. Et sur ce match-là, il y a eu un manque de créativité.
Il y a autre chose aussi, Mathieu, et c'est ce que disait Lionel aussi. Moi, je suis assez d'accord avec Lionel. Vous m'enlèverez pas de l'esprit que certaines déclarations, certaines postures, certaines attitudes.
Bien évidemment.
Parce que nous, on voit ce qui se passe sur le terrain, mais les 23 heures, autres heures et demie, elles se passent en dehors du terrain où ils sont tous ensemble toute la journée pendant plus d'un mois. Quand il y a un mec qui ligne des claques qui lui plaît pas, que Griezmann, le mec qui fait 84 matchs d'affilée, c'est l'un des tauliers de l'équipe de France, c'est lui qui devrait avoir le brassard dans plein de sélections parce que c'est lui le plus capé.
Et
qu'il entend les mecs qui le lâchent en conf de presse, vous allez me dire que les mecs, ils disent, ils ont envie de se dépouiller comme Lionel.
Ils commencent à gratter, ils se mettent un petit peu en retrait et en plus le leader, celui qui le dit, il se met en difficulté vis-à-vis du groupe, vis-à-vis de ses paroles par rapport aux autres, mais il se met aussi en difficulté parce qu'il n'est pas performant. Et s'il se met en difficulté, et ce que disait Mathieu, pourquoi il n'a pas marqué. C'est pas la faute, t'as pas de chance quand on marque pas. Alors que le mec, il marque tous les buts, qu'il en a marqué 40 et quelques. C'est pas la faute, t'as pas de chance. Si le mec, il n'est pas en confiance, c'est parce que quelque part, il n'a pas été mis en confiance. Il ne s'est pas mis lui-même en confiance et il n'a pas, il ne ressent pas la confiance des autres. Et c'est pour ça que derrière, eh ben, on perd, on dit ah bah ouais, on manque de réalisme. Mais le réalisme, ça vient pas comme ça. C'est pas, c'est pas aujourd'hui, je vais marquer un but. Tout le monde veut marquer des buts.
Nico,
le football.
Moi, j'aime bien que tu rappelles les déclats, etc. Mais la semaine dernière, beaucoup me trouvaient injuste quand on a disséqué la conférence de presse de Kylian Mbappé. Et même toi, tu n'étais pas d'accord sur Griezmann. Tu m'as dit Walid.
Mais tu veux que je te dise, Walid,
beaucoup trop.
Et je te répète ce que je te dis. Moi, je trouve, sur le coup, que Mbappé, peut-être qu'il a une partie de la phrase qui est maladroite, mais je pense qu'il essaye de faire le taf autour. En revanche, le fait que Deschamps, juste après, défendent et cherchent des excuses encore à Mbappé, ne le fasse pas avec Griezmann. Et ça, je te l'ai dit aussi, là, je comprends moins. Et moi, c'est surtout Rabiot.
Là, t'as perdu.
Moi,
là,
c'est Rabiot. Rabiot, quelques jours après, qui nous dit ouais, il est pas bon, il est au fond du tronc, on l'a jamais vu comme ça.
Mais Rabiot, son concurrent, Rabiot.
Justement, c'est ce que dit Lionel.
D'accord.
Son concurrent, il est censé être là pour le pousser, pour l'enfoncer.
Mais donc, tu peux pas. Donc, Rabiot.
Et pareil, Deschamps sur Giroud, pareil.
Mais donc, tu peux pas dire Rabiot et Deschamps et Mbappé dire non, mais finalement, alors qu'il dit, il y a pas honte. Il n'y a pas deux poids deux mesures.
Non,
donc,
non c'est tout le monde. Si il y a deux poids deux mesures, c'est que Mbappé, on lui laisse tout passer. Et Griezmann,
oui,
tout le monde lui a tout
Mais quand je t'ai rappelé que Mbappé, à l'époque, il disait, que Giroud, à l'époque, disait les ballons n'arrivent pas quand il le faut. Et que Mbappé, le lendemain, il l'a rattrapé par le col en conférence de presse. Et que là, 4 ans après, il fait la même chose sur Griezmann en enrobant l'histoire. Oui, mais il faut le soutenir. Allez les gars, faut l'aider, Griezmann. J'avais l'impression que c'était un mec, un joueur dans un EHPAD. Allez, faut le pousser, parce que là, il est pas bon. Franchement, il n'y a pas honte à le dire. Il n'est pas bon, Griezmann, en ce moment. Je t'avais dit que ça peut être pris comme un manque de respect dans le vestiaire. Et puis, je vais aller sur la deuxième chose. C'est que moi, quand on me dit le match contre la Pologne, c'était pas si important. C'est ce que l'auditeur est en train de m'expliquer. Mais tu as quand même deux matchs où Griezmann, il n'est pas sur le terrain. C'est contre la Pologne et contre l'Espagne. En termes de créativité, je suis désolé. Je ne dis pas que contre le Portugal et contre la Belgique, c'était mieux. Et encore, contre la Belgique, il était mal utilisé. Il était à droite. Mais moi, ce match contre la Pologne, déterminer le tableau futur de l'équipe de France.
Il n'y a pas de matchs qui ne sont pas importants. Tous les matchs sont importants. Et même le troisième match, admettons.
Vas-y, on arrive, Mathieu.
Excuse-moi, Mathieu. Ouais. Même le troisième match, admettons que la France aurait pu faire tourner avec deux victoires, il faisait tourner. Ce troisième match, est très important aussi. Pourquoi ? Parce qu'il permet ce que tu disais, Nico, de faire aussi.
Tu concernes tout le monde.
De concerner tout le monde. Et ça, c'est hyper important. Donc, tous les matchs, et celui qui est concerné dans le troisième match, c'est pas « Oh, on a fait jouer les coiffeurs, dommage, on a perdu ». C'est pas ça, parce que c'est mal réagir
l'analyse.
Parce que dans ce cas-là, si tu fais rentrer les coiffeurs et que tu perds le match, les coiffeurs s'excluent eux-mêmes du groupe. Donc, t'as plus d'unité de groupe, t'as plus d'équipe.
Mathieu.
T'as une équipe et c'est tout.
Mathieu,
et
pour conclure,
ça se gagne pas comme ça, un championnat d'Europe.
Ouais, non, juste ce que le match de la Pologne était évidemment hyper important. Je remets pas ça en cause du tout. En fait, ce que vous faites là, c'est que c'est plutôt Deschamps qui a fait les mauvais choix sur le troisième match. Il aurait dû faire un petit peu différent. Moi, le seul constat que je fais en tant qu'amateur de football, c'est que je me dis que l'équipe de France, même si il est vrai qu'elle n'était pas parfaite, tout ça, si elle a vu ce petit bout de réalisme sur une occasion à la toute fin, elle était hissée en finale et que voilà, ce réalisme qui a manqué à Mbappé, c'est aussi probablement dû à toute la saison qu'il a eue au PSG, qui était très compliquée, et tous les déboires extrasportifs qu'il a pu vivre à côté, et où on n'est même pas au courant.
Mais Mathieu, le réalisme, tu l'as déjà contre le Portugal, contre la Belgique, le réalisme.
Est-ce qu'en huitième, il était plus facile de... Après, on ne peut pas refaire l'histoire. Est-ce que c'était plus facile de jouer la Belgique ou la Turquie ? Peut-être que si on avait joué la Turquie en étant fort, en ayant fini premier, on sautait derrière. Tu vois ce que je veux dire aussi ?
Oui, mais Mathieu, moi, ce que je te dis, c'est que déjà contre la Belgique, quand tu mets un but contre son camp à la 84e minute, tu l'as ce réalisme, tu l'as ce petit coup de pouce. Contre le Portugal, tu l'as ce petit coup de pouce aussi sur cette séance de tir au but avec João Félix qui le met sur le poteau. C'est-à-dire que le réalisme, il a bon dos en fait.
T'as raison.
À un moment donné, c'est ce qui te permet aussi d'aller en demi-finale en produisant très très peu.
Il y a beaucoup d'appels au 32-16, c'est qu'on va poursuivre le débat. On aura aura Stéphane notamment qui est là. Si vous voulez continuer de poursuivre, on vous attend. Merci Mathieu d'avoir été avec nous.
Merci.
Salut Mathieu. À bientôt Mathieu. Tu reviens quand tu veux. Merci à toi aussi Mathieu. Tu reviens quand tu veux. Tiens, un petit détour par le basket. Un match de prépa pour l'équipe de France avant les JO. L'équipe de France qui est menée face à la Serbie. Jérémy Donzé toujours.
Oui, menée, malmenée. Les Bleus, les hommes de Vincent Collet. 14 points de retard. 45-59. C'est la Serbie qui est devant. 2 minutes 45 à jouer dans ce troisième et avant-dernier quart-temps. Et ça n'a rien d'un match amical. C'est un vrai match de préparation pour les JO. Mais c'est un vrai duel entre les deux équipes, les Bleus qui défient ce soir le finaliste de la dernière Coupe du Monde. La dernière fois, c'était au JO 2016 que les deux équipes s'étaient affrontées. Les Français l'avaient emporté sur un panier primé de Tony Parker qui sera honoré à l'issue de cette rencontre. Son maillot, le fameux numéro 9, sera retiré à tout jamais de l'équipe de France. 59-47, les Bleus sont menés face à la Serbie. 12 points de retard, 2 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps.
Merci Jérémy. Et puis on dépasse l'heure de jeu entre la France et la Suède. Match de qualif pour l'Euro 2025 et l'équipe de France féminine qui menait, mais il y a match nul toujours un partout, Hamza. Hein.
Oui, effectivement, un partout du côté de Dijon entre la France et la Suède. Pour l'instant, la France ne validerait pas encore sa qualification. On rappelle qu'il reste encore une journée. Dans quelques jours, ce sera mardi en Irlande.
Merci Hamza. Allez, on poursuit dans un instant avec Lionel Charbonnier, avec Walid Acharchour. Vos appels au 32-16. Vous êtes nombreux à réagir à la vie tranchée de Lionel qui nous dit que l'équipe de France n'était pas une équipe sur cet Euro 2024. A tout de suite sur RMC.